on ne tourne pas forcément en rond. On essaie d'évoluer. Il y a quand même des éléments de satisfaction qu'il faut saluer. Il y a tout dernièrement l'Arabie Saoudite qui a donné un engagement. Il y a des États qui se sont manifestés pour donner un engagement. Mais on est vraiment loin du compte. Hein. À partir du moment où sur un budget de 425 millions d'euros, nous sommes encore à 294 millions. Vous voyez parfaitement que le chemin reste encore long. Mais je pense que au-delà de cet aspect, il faut quand même se poser la question de savoir si ce mode de financement de cette force conjointe seront des modes de financement pérennes. Il faut quand même que les États réfléchissent à des modes de financement plus pérennes, parce que une chose est de lutter contre le terrorisme et une autre chose est vraiment d'amorcer une vraie politique de développement dans cette zone.
Oui, pensez-vous que les États membres du G5 Sahel ont les moyens financiers de financer une partie?
C'est aux États membres de réfléchir à la mise en place de ces moyens. Ces moyens peuvent être lié à la mobilisation des moyens budgétaires. Ça peut aussi se manifester par la mobilisation des moyens financiers sur les marchés financiers internationaux, mais tout cela dépend de la capacité de ces États à donner beaucoup plus de légitimité sur les marchés financiers internationaux.
Oui, mais très peu de pays membres ont annoncé leur contribution en termes de troupes, à part le Tchad et le Mali.
Parce que jusqu'à preuve du contraire, les gens pensent que les enjeux sont assez contenus en termes d'insécurité dans cette zone et que ça ne va pas forcément dégénérer dans les pays européens ou dans les pays du Moyen-Orient. Et du coup, comme l'enjeu est complètement circonscrit pour certains États, du coup, ça y a pas forcément d'enjeu à aller investir de manière importante dans cette zone. Et ça, c'est aux pays membres du G5 Sahel d'être assez persuasifs sur la question pour dire, écoutez, si on ne fait pas face au terrorisme dans cette zone, ça va forcément infester toute la planète Terre.
Est-ce que ce n'est pas peut-être à cause du succès relatif de la force Barkhane, est-ce que ce n'est pas à cause de ça que les États membres des pays membres du G5 Sahel traînent un peu les pieds?
La force Barkhane a eu un succès relatif, vous-même vous l'avez dit, un succès relatif, mais ce n'est pas un succès absolu. En dépit de la présence des forces Barkhane, de l'aménagement et même des forces maliennes, et le terrorisme continue à tuer des gens au Mali, dans le nord du Mali. Il y a le centre du Mali qui tombe petit à petit. Et ce succès de la force Barkhane qu'on brandit souvent comme un joyau, purement politique, mais sur le terrain, il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire. Il ne se passe pas plus d'un mois que le terrorisme ne fasse pas des morts dans cette zone. Ça veut dire que le succès n'est pas encore complètement éclatant.
Oui, mais si le bilan de l'opération Barkhane est mitigé, que fera la force du G5 Sahel s'il était mis en place?
Voilà, effectivement, si le bilan est mitigé, la force de conjointe aura comme pour atout la connaissance du terrain. Au-delà de la connaissance du terrain, le fait d'être ancré dans les réalités de la zone, parce qu'on n'est pas sans savoir que ça constitue des forces de défense et de sécurité des pays qui sont menacés par ce terrorisme dans cette zone. Quand on prend toute la zone couverte par le G5 Sahel, on voit nettement qu'il s'agit des forces qui vont être mobilisées et qui ont une parfaite connaissance de la zone.
Mais actuellement, les forces tchadiennes connaissent le terrain. Elles sont présentes, non, dans l'opération Barkhane?
Elles sont présentes dans l'opération Barkhane, mais elles n'ont pas le commandement de l'opération Barkhane. Il faudrait que le commandement revienne de plus en plus à des forces locales qui connaissent très bien le terrain et qui savent complètement les réalités sur place, pour, au-delà même de la force, que les politiques engagent une de vraies questions de développement dans cette zone. Et ça, la force Barkhane ne répond pas forcément à ça. La force Barkhane vient pour appuyer une lutte contre le terrorisme qui, à l'époque, dans les années 2013, avait le risque de retomber sur Bamako et puis prendre tout le pays. Mais cet objectif ayant été atteint, il faut quand même aller au-delà de la seule zone du Mali, couvrir la zone du Niger, aller jusqu'au niveau du Tchad. Et ça, la force Barkhane a certes une compétence en termes de matériel, mais en termes de vraies connaissances et d'ancrage dans la zone, la question reste posée.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les partenaires internationaux, France, Union européenne, ONU, hésitent un peu à mettre la main dans la poche pour soutenir la mise en place de la force du G5 Sahel?
La question peut se poser, même s'il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui ont été fournis. Mais effectivement, la question de la frilosité des partenaires que vous venez de citer se pose. Mais cette frilosité pourrait s'expliquer par différents facteurs. Hein. Et on peut poser la question de la gestion effective et de l'utilisation effective des fonds qui sont mis en place. On peut parler de l'efficacité de cette des modes de financement dans cette zone quand on connaît la capacité des armées aujourd'hui de cette zone. Il y a différentes raisons qui peuvent expliquer cette frilosité, mais il appartient aux États membres du G5 Sahel de sortir des arguments persuasifs pour convaincre les partenaires qui ont encore de la frilosité.
OK. Donc, en conclusion, vous appelez les partenaires étrangers, notamment France, Union européenne et États-Unis, ONU, à mettre la main dans la poche pour que cette force conjointe du G5 Sahel soit créée rapidement.
J'appelle tout le monde à mettre la main à la poche. Bah, l'Union européenne, la France, les Nations unies, tout le monde met la main à la poche, mais il appartient aussi aux États membres du G5 Sahel de réfléchir à des modes de financement alternatifs, à des modes de financement pérennes. Qui vont prendre le relais éventuellement, parce que cette force, quand on regarde un peu les modes de financement, on a l'impression que c'est pour financer des opérations sur une durée bien déterminée, parce que de plus en plus, il faut aller vers des opérations pérennes pour asseoir effectivement des vrais piliers de développement.
Mais quelles sont ces opérations pérennes là que vous préconisez?
C'est des opérations de développement. Il faut la force, la lutte contre le terrorisme ne va pas se résumer seulement à des forces de défense. Il y a aussi des opérations de développement qu'il faut engager dans cette zone avec des populations qui sont d'une pauvreté assez extrême et qui sont facilement vulnérables aux appels des terroristes.
Oui, c'est-à-dire attaquer le mal à la racine, à les causes même du terrorisme.
Exactement, attaquer le mal à la racine et engager de vraies questions de développement au-delà de l'aspect militaire.